Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le Grain de Sable accueille le groupe local Concertation Prison. Nous avons donc deux invités, Claude Collin.
Oui, bonjour.
Et puis Stéphane Simon, qui est aumônier.
Bonjour.
Et qui participe aussi
de ce groupe local Concertation Prison, Lyon-Villefranche-sur-Saône.
Alors, le groupe local Concertation Prison, c'est un groupe composé de 17 associations.
Alors, c'est un groupe, oui, qui s'est constitué, qui est déjà constitué au niveau national, qui s'appelle le groupe national Concertation Prison. Et pour le département du Rhône, on est le groupe local Concertation Prison, qui regroupe effectivement les associations qui interviennent dans le milieu pénitentiaire. Voilà. Donc, au niveau départemental, c'est-à-dire principalement ce qui nous concerne, la maison d'arrêt de Lyon-Corba, la maison d'arrêt de Villefranche, l'établissement pour mineurs de Mézieux, et puis l'unité hospitalière de soins adaptés qui se trouve à Vinatier pour les détenus en psychiatrie.
Ah oui, d'ailleurs, on a vu quelques personnes dans le documentaire de The Jour qui venaient...
Oui, de l'UHSA.
Tout à fait. Alors, le groupe est né quand ? À quelle période est né ce groupe ?
Alors, ce groupe, moi, je l'ai connu au moment où j'ai commencé à travailler. Je ne sais pas exactement à quel moment il est né, mais il est né d'un besoin, notamment avec l'association San Marco, avec les visiteurs de prison, qui occupaient pratiquement un même local qui est près de la prison Saint-Paul, qui était à Perrache. Donc, pourquoi il s'appelle San Marco ? C'est parce qu'ils étaient dans une pizzeria qui s'appelait le San Marco. Alors, pour se connaître... Ils se sont appelés San Marco. C'est uniquement, ça vient uniquement de ça. C'est pas, il n'y a pas de côté italien dans cette affaire. Hein.
C'était juste un repère en fait.
C'était un repère géographique pour les familles notamment qui devaient voir un détenu, parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont en détention, en maison d'arrêt, ce sont des prévenus ou des courtes peines. Donc les familles ne sont pas toujours au courant. Il y a un grand mouvement hein, dans les établissements, dans les maisons d'arrêt notamment. Il y a à peu près près d'une centaine de mouvements hebdomadaires entre les entrées et les sorties. C'est pour vous dire qu'il y a un grand brassage d'une population qui passe dans ce système pénitentiaire.
17 associations ?
Alors, 17 associations, alors bon, je vais essayer quand même de vous les énumérer. Il y a tout, du côté de l'enseignement, il y a l'association Auxilia, qui donne des cours sur place et des cours par correspondance. Le Génépi, qui est un groupe national étudiant, qui lui intervient et mène une action de réflexion permanente sur le système carcéral. Le CLIP, qui est l'informatique qui s'occupe de faire des formations sur la base informatique. Voilà, il y a la culture avec l'ACEMALC, dont moi je suis vice-président de l'ACEMALC, c'est l'association socio-éducative de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, qui comprend dans son sein des écrivains publics, la bibliothèque, la cuisine, le journal, de la couture, du spectacle, de la sophrologie. Et actuellement, il y a une transformation qui se fait, c'est que l'administration pénitentiaire et le SPIP, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, a passé une convention avec la Fédération des œuvres laïques pour organiser l'animation socio-culturelle dans ces établissements. Voilà, donc il y a actuellement des mouvements qui sont en train de se faire.
Et par exemple, la CEMAC, comme c'est lié à la maison d'arrêt de Corba, vous êtes à l'intérieur de la maison ?
Alors, les intervenants vont à l'intérieur de la maison. Il y a des dames qui font de la couture, du tricot, qui vont à la maison d'arrêt femmes et qui travaillent avec elles. Les écrivains publics interviennent aussi à la demande des détenus. Ils posent une demande au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et à ce moment-là, ils peuvent... effectivement avoir recours aux écrivains publics. Bon, en ce qui concerne l'accueil des familles de détenus, j'en ai parlé. Il y a le San Marco sur Lyon. Lyon et Mézieux et la SAFPI sur Villefranche. Voilà.
Association d'accueil des familles de personnes incarcérées.
Voilà. Autrement, il y a des associations caritatives comme la Croix-Rouge qui organisent des vestiaires. Or, les vestiaires, ça consiste à amener des vêtements. Les personnes détenues peuvent choisir des vêtements qui leur correspondent. Donc ça, c'est assez nouveau. Il y a les aumôneries aussi qui interviennent. Et après la prison, il y a le MAS, qui est un centre d'accueil et d'orientation qui marche avec le ministère de la Cohésion sociale. C'est pour permettre aux gens, après la détention, de pouvoir trouver des logements, trouver un travail, essayer de se réinsérer. Il y a l'association Compagno, qui prépare à la sortie, et aussi aux accompagnements. Et autrement, il y a des associations comme la FNARS, qui est la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale et Aménagement de Peine. Voilà. Le FARAPEJ, qui est une fédération des associations de réflexion, action, prison et justice, qui est basée principalement avec du personnel qui, lui, est plus des professionnels de la justice.
Ça fédère à peu près 70 associations, la FARAPEJ.
Voilà, FARAPEJ, même, c'est aussi une fédération.
Donc en fait, l'ensemble de ces associations courent, on va dire, qu'à grande compétence. Hein, l'accompagnement des prisonniers, je pense, par rapport à leurs droits.
Alors, par rapport à leurs droits...
Je vais finir, Claude.
Oui, bien sûr.
Je vais juste finir ma phrase. Donc, l'accompagnement des prisonniers par rapport à leurs droits. Il y a ensuite toutes les intervenants qui concernent l'éducation, la formation, peut-être.
Par exemple, le Génépi, les étudiants qui rentrent pour aider au niveau culturel.
Des animations, loisirs, je ne sais pas, enfin, comment on pourrait qualifier...
Culturel.
Culturel, mmh. Voilà. Et puis, en quatrièmement, donc j'ai dit quatre, la préparation à la sortie, finalement.
Oui, alors il y a quelques conférences qui sont faites à la demande des détenus. Alors, il y a eu une animatrice, une coordinatrice socio-culturelle qui était employée par ACEMALC, qui actuellement est employée par la Fédération des œuvres laïques, la FOL. Voilà. Donc, elle passe des conventions et des contrats avec, je sais pas, par exemple, les subsistances, avec des groupes d'artistes, avec des conteurs, avec des gens qui peuvent intervenir en prison. Pour organiser moi-même du cinéma ou des choses comme ça. Voilà.
La préparation à la sortie, c'est quand même du domaine du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Oui.
Donc les fonctionnaires de la pénitentiaire. Mais ils comptent aussi sur des associations comme le MA, tu disais, une nouvelle association à Lyon, Mézieux, Devenir, où des sortants de prison sont accueillis dans des appartements, et ça se fait en partenariat avec le service pénitentiaire d'insertion de probation.
Mais je pensais aussi à l'association Compagno,
oui.
Le MA, donc effectivement...
Enfin, c'est quelque chose qu'on voit quand même se développer, où c'est des activités ou des missions qui relèveraient du service public, qui sont de plus en plus déléguées...
Oui,
au milieu associatif.
Oui, actuellement, disons que toute cette action, elle repose beaucoup sur du bénévolat. Et ce bénévolat, à un moment donné, si vous voulez, pour vous expliquer les financements, c'est pour les associations socio-éducatives, elles géraient les télévisions et les réfrigérateurs qui sont dans les cellules. Et ça rapportait un peu d'argent, même assez d'argent, pour pouvoir faire de l'action culturelle. Et puis, on a trouvé... il y a eu des mouvements en disant « c'est quand même pas bien normal, c'est d'une quelque part aussi exploiter les détenus, c'est-à-dire utiliser leur argent... »
Parce qu'en fait, c'est leur argent qui sert à payer.
Qui sert à payer ça. Et donc, c'était pas l'argent de l'administration pénitentiaire, c'est pas de l'argent public. Donc il faudrait que ce soit de l'argent public. Alors petit à petit, nous avons eu, c'est la politique de la ville qui nous a donné des subsides, des subventions pour pouvoir fonctionner. Mais petit à petit, et aujourd'hui ça commence, ça s'arrête tout ça. Ça s'arrête, le SPIP qui devait nous donner une subvention cette année ne nous a rien donné. On vit sur nos acquis, mais on va pas pouvoir durer sur ces bases-là. Alors il faut que tout ça soit rationalisé, et puis il faudrait faire en sorte que l'administration pénitentiaire, les services de pénitentiaire d'insertion et de probation jouent vraiment leur rôle, parce que c'est vraiment la tâche qui leur est dévolue. Et actuellement, il y a un manque de conseillers d'insertion et de probation. Il y a eu des mouvements de grève il y a 2 ans à peu près, qui étaient importants. Donc il faudrait qu'on puisse sortir de ça.
J'ai oublié quand même un cinquième aspect, c'était aussi l'aide pour les détenus qui sont sans doute en situation de précarité. Hein. On a parlé des vêtements, j'ai oublié cet aspect-là aussi.
J'en voyais un autre, je pensais que c'était celui-là, c'était quand même l'accueil des familles aussi. C'est-à-dire
Alors l'accueil des familles, il se fait dans des bâtiments qui sont... qui jouxtent la prison, qui sont à proximité. Donc les familles viennent s'adresser aux gens de San Marco, par exemple. San Marco leur explique les marches à suivre pour réserver des parloirs, pour apporter du linge, pour apporter des choses aux détenus, sachant que tout ça est très contrôlé. Mais les familles ne sont pas démunies, c'est-à-dire qu'elles ont quelqu'un à qui s'adresser. Oui. Elles ne sont pas à la porte tout de suite en attendant qu'on les reçoive, sans savoir exactement comment tout ça fonctionne.
Est-ce qu'il y a aussi de l'aide à l'accueil, je dirais, si une famille vient de loin et a besoin de... Bah, pour aller voir un détenu, de passer la nuit ou de...
Alors, bon, actuellement, le San Marco est démuni pour ça. Hein. Le San Marco reçoit... parce que, bon, il faut savoir que, bon, rien que pour Corba, il y a actuellement autour de 1100 détenus pour 690 cellules. Donc, les visites se suivent à un rythme important. Bon, la plupart des détenus sont des gens de la métropole ou du Rhône. Mais il arrive qu'il y en a qui aient des détenus qui viennent de beaucoup plus loin, même en dehors de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et ça, San Marco ne peut pas prendre en charge les familles. Ils essayent de prendre en charge, par exemple, les enfants. Quand les familles viennent avec des enfants, alors soit l'enfant souhaite voir son parent détenu, soit... il ne souhaite pas, ou la famille ne le souhaite pas, et à ce moment-là, on le confie à quelqu'un de San Marco.
En fait, le groupe local dispose de peu de moyens, si je comprends bien. Le groupe local de concertation en prison ne dispose que des moyens issus de ce qu'apportent finalement ces 17...
Les autres associations. Il était question à un moment de se constituer en association en loi 1901, mais ça pose les problèmes d'avoir une nouvelle structure, de trouver un président, secrétaire, trésorier, faire une assemblée générale, avoir des finances. Et comme on est déjà dans des associations qui ont à se gérer elles-mêmes, on a reculé devant cette situation en demandant que les associations qui le peuvent puissent financer les activités du GLCP.
D'accord, donc c'est plutôt un principe de collectif, ou est-ce qu'il y a un statut
Il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut vraiment. C'est une structure tout à fait souple, tout à fait ouverte.
Et donc, qui s'articule comment avec chacune des associations?
Ben disons qu'on on est plusieurs. On est là. Vous avez devant vous deux responsables, hein, Stéphane Simon et moi-même, et également François
Châtaignier,
qui donc c'est un triumvirat. Lui, c'est un visiteur de prison. Stéphane, lui, est aumônier. Moi, je suis aussi adjoint à la culture de Corba. C'est pour ça que je me suis aussi investi sur sur cette maison d'arrêt.
Le GLCP permet de se rassembler à peu près tous les deux mois pour échanger nos pratiques, nous soutenir, nous donner des informations et viser telle ou telle action. On parlera peut-être tout à l'heure des journées nationales prison. C'est le GLCP qui organise tous les ans, en novembre, pendant une semaine, des activités qui présentent les questions pénitentiaires, judiciaires, au grand public, avec des débats, des ciné-débats, des conférences, des rencontres informelles. Donc le GLCP permet au moins de se rencontrer.
Oui, puis j'imagine échanger sur les pratiques, mais également dans son activité, une association peut voir émerger un besoin qui concernerait une autre, ou envisager des actions transversales ou pluridisciplinaires.
Tout à fait.
Oui, c'est ça. À chaque réunion, le premier point de l'ordre du jour, c'est quoi de neuf ? Quoi de neuf dans ce que vous vivez. Donc ça permet, c'est important, ça permet vraiment d'échanger, de savoir ce que l'un fait ou ce que l'autre fait, quelles sont les difficultés, quels sont les points intéressants, les points forts. Voilà, disons que c'est quand même une concertation qui est devenue vraiment indispensable, puisqu'en fait tout le monde vient. Et j'ai vu encore aucune association qui dise « oh ben ça nous intéresse plus ». On se débrouille par nous-mêmes, etc.
Est-ce que vous avez un peu aussi un rôle de revendication collective ou de plaidoyer ?
Alors le plaidoyer,
selon les besoins, l'actualité.
Le plaidoyer, c'est le plaidoyer qu'on a en général sur la question pénitentiaire. C'est-à-dire que actuellement, on voit le constat d'échec qui existe en matière de sécurité publique. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui repose sur la sanction pénale, et la sanction pénale pour l'ensemble du public, c'est la prison. Or, la prison, elle a un effet destructeur, elle a un effet néfaste pour beaucoup de détenus, hein, c'est-à-dire qu'ils n'en sortent pas meilleurs qu'ils en sont rentrés, et le fait est que 65% des personnes qui sortent de l'incarcération récidivent dans les 5 ans. Donc il y a un constat d'échec sur cette question-là. Et le fait d'avoir une politique sécuritaire qui dit, comme a dit Emmanuel Macron, il faut construire 15 000 places supplémentaires, c'est aller vers l'échec, à notre avis. À notre avis, il vaudrait mieux vider les prisons ou diminuer le nombre de détenus que l'augmenter tel que c'est prévu.
Profiter de ce qu'on appelle des peines alternatives.
Voilà.
Par exemple, les TIGE, les
travaux
d'intérêt général. Alors, il y a une nouvelle association sur Lyon, de Chantier Passerelle, qui est tout à côté, là. L'objectif, c'est de déployer cette mesure du TIGE qui est pleine de bon sens. Pour les peines de moins de 2 ans de prison, pourquoi ne pas les faire à l'extérieur, dans le monde associatif, dans le monde municipal ? C'est reconstructeur pour tout le monde, bénéfique pour tout le monde. Lors d'un congrès ou un colloque à Lyon, il y avait un jeune qui avait bénéficié d'un TIGE. Il expliquait combien ça l'avait considérablement transformé, aidé. Alors tout le monde est d'accord, après c'est les moyens qui devront suivre.
On reviendra peut-être sur l'utilité de la peine, que signifie aussi être condamné aujourd'hui, après une petite pause musicale, et on parlera aussi après la pause musicale, on refera le point sur les différents intervenants en prison.
Oui,
qu'on ait bien en tête le schéma.
Aujourd'hui la terre tourne à l'envers, trouver le bon chemin. Partout il y a tant de faux frères, toi-même tu as lâché ma main. Aujourd'hui le temps est à l'hiver, y a plus d'étoiles, plus de saisons. On est tout seul dans l'univers, plus seul encore dans sa maison. C'est pas la faute aux noirs méchants, c'est pas la faute aux méchants blancs. Les uns les autres également, on se fait du mal tout le temps. Parfois il tient à quelques sous, souvent il ne tient qu'à un fil. Finalement tiendra-t-il le coup? C'est pas la faute aux noirs méchants, c'est pas la faute aux méchants blancs, ni l'un ni l'autre, et cependant on se fait du mal tout le temps. Aujourd'hui l'amour est à l'orage et le soleil n'est pas pour demain. Demain il y aura pas davantage de raisons pour qu'on s'aime enfin. Aujourd'hui le monde est en colère, l'amour est porté disparu. Comme un voleur s'est fait la paire, toi-même déjà où donc es-tu? C'est pas la faute aux noirs méchants, c'est pas la faute aux méchants blancs, la faute à l'autre naturellement. On se fait du mal tout le temps. La faute à l'autre, naturellement, on se fait du mal tout le temps.
Alors, Claude, tu avais choisi cette chanson.
Oui.
Dis-nous pourquoi.
Ah, pourquoi? Parce que je l'aime bien, parce que, bon, je ne l'ai pas bien réécouté puisqu'on a parlé entre nous, mais... moi j'aime bien cette chanson à texte, j'aime bien cette mélodie, j'aime bien, voilà.
On n'a pas donné le titre. Le titre de la chanson, on ne l'a pas donné d'ailleurs.
On se fait du mal tout le temps.
Voilà. C'est Aude Desfonds.
C'est Aude Desfonds qui chante, voilà. Qui chante dans un groupe qui s'appelle Les Authentiques.
Les Authentiques.
Oui, Les Hôtes Antiques. Antique.
Alors, on revient aux hôtes un peu particuliers des prisons. Ce qui serait peut-être bien de nous expliquer, c'est qui intervient en prison. Enfin, les différents intervenants, bien sûr, il y a l'administration pénitentiaire, et puis les liens entre ces différents intervenants.
Ben, les liens, ils ont déjà les liens au sein de leur propre organisation, hein, ils tiennent leur assemblée générale, ils ont des réunions, ils voient les questions qui leur sont propres, hein, par exemple l'accueil des familles voit les questions, les visiteurs de prison voient leurs problèmes aussi, ceux qui s'occupent de l'enseignement auxiliaire ou le clip, on voit aussi leurs questions, et si vous voulez, c'est le GLCP qui permet d'avoir un peu une coordination entre tout ça, savoir ce que chacun fait et quelles sont les problématiques.
Il y a d'autres intervenants.
Alors, les autres intervenants, alors il y a l'Union locale d'éducation, qui dépend elle, de l'éducation nationale, qui est chargée de donner des cours de français, de calcul, de maths, qui prépare des examens jusqu'au bac. Mais il y a pas beaucoup de bacheliers, mais il y en a. Il y en a, il y a une remise des diplômes qui se passe début juillet, à laquelle j'assiste en général, qui est intéressant. Et puis bon, dans les autres activités qui regroupent plusieurs associations, il y a les colis de Noël, qu'il faut appeler maintenant, pour des raisons de laïcité, colis de fin d'année, de fête de fin d'année. Voilà. Mais en fin de compte, donc, de l'argent est collecté par la CEMALC, la Croix-Rouge, l'accueil Saint-Marco, les visiteurs de prison. Il y a à peu près entre 4 500 et 5 000 euros qui sont faits pour constituer aux alentours de 250 colis. Et ces colis sont distribués dans les établissements pénitentiaires, donc à Corba, à Mézieux et au Vinatier. Alors à Mézieux, où il y a les détenus mineurs, on donne un colis à chacun. Également à l'UHSA, on donne un colis à chacun.
Et puis, UHSA,
Union Hospitalière de Soins Appliqués, adapté, qui se trouve au Vinatier. Hein. Oui, donc on parle un petit peu le langage de l'administration.
Mais on est là pour les sigles. Pour déminer les sigles.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres intervenants que vous voyez? Alors, il y a les aumôniers.
Oui. Alors, il y a les aumôneries voilà. De toutes confessions et religions.
Confession.
Il y a le monde médical.
Il y a le monde, il y a les infirmières, les assistantes sociales.
Et bon, ça, c'est précieux, ça.
Il y a l'action. L'action que faisait le Secours catholique à un moment donné, c'était d'intervenir auprès des indigents, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pratiquement rien dans leur compte, on leur donnait 20 euros par mois pour cantiner. Un cantiner, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est acheter des produits en plus de ce qui est donné dans les cellules. Les personnes avaient un petit peu cette subside-là. En ce qui concerne les colis de Noël, ce sont les personnes qui ne reçoivent pas de colis de leur famille, hein, et qui s'inscrivent en disant « Moi, je ne reçois pas de colis à Noël, donc à ce moment-là, on les inscrit début décembre, et puis on leur confectionne un petit colis. »
Et occasionnellement, il y a d'autres interventions, comme une proposition de faire du théâtre, du yoga. Quelquefois, il y a un groupe qui présente un concert dans une salle polyvalente. Il y a aussi des intervenants occasionnels, comme ça.
Oui, oui, oui.
Et est-ce que vous avez des contacts, l'idée a déjà plus ou moins posé la question avec la notion de plaidoyer, mais est-ce que vous rencontrez donc des politiques?
Alors, des politiques...
Des parlementaires, je pensais surtout aux parlementaires, peut-être, qui pourraient avoir à proposer un certain nombre de choses.
À l'époque, il y avait la réserve parlementaire, la députée où j'habite, a voulu financer notre association de justice restaurative, on en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Mais sinon, rarement...
Disons que moi, j'en ai eu à un moment donné, quand on... L'administration pénitentiaire a décidé de ce qui passait par la préfecture, de pas nous donner de subvention. On a fait intervenir plusieurs parlementaires, notamment Guy Fischer, qui venait à nos rencontres, qui était sénateur communiste de Vénissieux. Il s'est beaucoup intéressé aux questions pénitentiaires. Également André Gérin aussi avait pris une position là-dessus. Au moment où je suis rentré à la municipalité de Corba et que la prison est arrivée, des personnes du SPIP nous ont contactés pour voir ce qu'on pouvait faire avec eux au niveau bibliothèque.
Alors le SPIP.
Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà, alors le SPIP nous a réunis. J'ai sollicité également les autres adjoints à la culture des communes environnantes pour qu'on fasse une convention de collaboration culturelle. Et cette convention de collaboration culturelle, elle a été aussi initiée par Kepenekian, qui a été un premier adjoint chargé de la culture à Lyon, qui maintenant est maire de Lyon. Donc on a lancé un appel aux communes de demander aux bibliothécaires professionnels des médiathèques d'intervenir pour pouvoir fournir et former des bibliothécaires. Donc ça fonctionne à peu près bien. Sur la maison d'arrêt de Corba.
Et l'accès à, à ses interventions ou à la bibliothèque. Et est-ce qu'il est facile, vous disiez qu'à Corbeil il y avait quand même énormément de monde, j'imagine que les 1100 personnes peuvent pas être touchées, donc comment se passe un peu l'information et l'accès à ces...
Alors bon, il y a si vous voulez les personnes qui veulent aller à la bibliothèque doivent s'inscrire. Ils doivent s'inscrire et à ce moment-là, on les appelle pour pouvoir se rendre dans la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est vrai que c'est un lieu où les gens, ils n'ont pas tous envie de lire non plus. Ils ont envie de se parler. Et à un moment donné, on voulait, certains demandaient, notamment dans les comités de détenus, ils demandaient à ce qu'on ait une salle dans laquelle on pourrait faire des jeux de société. Et ça, les jeux de société, c'est aussi un point qu'on a soulevé à un moment donné, qui posait problème d'organisation. Mais c'est vrai que ça permet jouer aux cartes, jouer au Scrabble, jouer à un jeu de société. Ça permet de socialiser les gens et d'éviter que les rapports entre les personnes soient des rapports de force. Parce qu'autrement, ça, c'est vrai que c'est un univers un petit peu violent parfois, et qu'il faut essayer de l'humaniser au maximum.
Et là, vous évoquez comité de détenus, et ça me fait penser à la question, est-ce que vous arrivez à co-construire, donc avec l'institution pénitentiaire et avec les détenus, des interventions qui répondent à des besoins ou...
Alors les comités de détenus, moi j'ai siégé à un certain nombre de comités de détenus. Au départ, c'était vu uniquement dans le but de faire le point sur les activités, et non pas sur des revendications internes. Est-ce que ce qu'on mange est bon? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que tout va bien? Non, on devait en rester à tout ce qui était activité, hein, bibliothèque, cinéma, choses comme ça, voilà.
Ouais. Vous pouvez pas parler des conditions
Sur les conditions, non. Et puis, actuellement, il y a une modification. Nous ne siégeons plus dans les comités de détenus.
Non. Voilà. Mais qui participe? Enfin, comment est constitué ce... De qui est constitué?
Alors, en fait, ces comités de détenus étaient constitués par l'auxiliaire journal et les auxiliaires bibliothèque. Et puis maintenant, ça a dû s'élargir un petit peu, mais c'est l'administration pénitentiaire qui a repris les choses en main. Et actuellement, nous, en tant qu'ACMALC, on ne siège plus dans ces comités de détenus.
Donc pour savoir si les interventions des uns et des autres répondent à des besoins, vous n'avez pas forcément de lien, ou alors ça peut être les intervenants qui
font des
bilans sur place au moment où...
Disons que les gens qui sont écrivains publics savent à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, on peut aussi savoir par certains surveillants qui sont tout à fait prêts à collaborer. Pas tous, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont tout à fait favorables, parce que pour eux, ils préfèrent que l'ambiance soit la plus paisible possible.
En fait, c'est un monde qu'on ne connaît pas bien, mais est-ce qu'il y a un accueil des détenus? Comment se passe l'arrivée d'un nouveau détenu, en fait?
Ouais, il arrive à ce qu'on appelle la fouille. C'est là où il fait son premier passage, où on va récupérer ses affaires personnelles, etc. Ensuite, il y a quelques points administratifs à régler. Il va dans le quartier des arrivants, et là, il sera pris en charge par l'administration pénitentiaire. On va lui expliquer le fonctionnement de l'établissement, ses droits... comment ça va fonctionner pour s'inscrire, comme on le disait à l'instant, à différentes activités. Et puis après, 3-4 jours après, le détenu va dans une coursive, en maison d'arrêt ou en centre de détention. Si c'est une personne qui a déjà été condamnée, il va purger une peine en centre de détention, et non plus en maison d'arrêt. Et après, ben, il va faire comme il peut. Hein. Oui. Il va essayer de trouver... En maison d'arrêt, ils sont deux par cellule, voire trois, mais là où j'interviens, ils sont deux.
Et en général, ils sont deux. Il y a encore la place. Disons que la direction essaye de ne pas mettre de matelas supplémentaires. Parce que dans la cellule où il y a deux personnes, il y a un lit à étage. Si on doit mettre un troisième détenu, il faut un matelas.
Dans 9 mètres carrés.
Et à ce moment-là, dans 9 mètres carrés, c'est quand même un microcosme un petit peu explosif. Quoi.
Alors qu'au centre de détention, là, on est seul dans sa cellule.
Oui.
Et parce qu'on on va purger une peine de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Oui, et en centre de détention, la personne n'est pas toute la journée dans sa cellule. Le problème des maisons d'arrêt, c'est qu'on reste beaucoup dans la cellule. Alors, sur les 1100 détenus, il y en a peut-être 200 ou 250 qui travaillent. Donc, ils vont quitter la cellule la journée pour aller faire leur activité. Mais dans ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours un choc de l'incarcération. Donc c'est pour ça que cette période des 4-5 jours d'observation, c'est important pour l'administration pénitentiaire parce que c'est là où la personne risque de disjoncter, d'avoir vraiment des difficultés.
Et l'intérêt d'intervenir comme ça dans le monde de la détention, c'est que la société civile est partie prenante du système pénitentiaire et l'administration pénitentiaire apprécie nos interventions multiples. L'administration a besoin des associations. Ça permet aussi d'aider le détenu à retrouver plus tard, le plus tôt possible, espérons pour lui ou pour elle, pied dans la société. Qu'il n'y ait pas une coupure radicale entre le monde extérieur et le monde de la prison. Donc là, il y a un gros chantier à développer. Accentuer cette présence de la société dans le monde carcéral.
Vous dites que cette présence est appréciée, mais elle arrive à y avoir toute sa place. Vous pensez que vous pourriez faire plus, que vous ne répondez pas à tous les besoins? Après, est-ce que c'est une question de moyens aussi de mise en œuvre?
À répondre à tous les moyens, à tous les besoins, c'est énorme. Hein, on peut pas demander à des bénévoles de prendre en charge toutes ces questions-là. C'est vrai que.
Non, mais est-ce qu'il y a assez de place dans la bibliothèque? Est-ce que les écrivains publics sont chargés? Est-ce que au moins les besoins exprimés sont.
Moi, je me rappelle avoir. Avoir fait la visite de la maison d'arrêt de Corbas au moment où elle était construite. Et puis j'ai interrogé un petit peu les architectes, les personnes qui s'occupaient. J'ai dit quels vont être les espaces culturels.
Oui, il y a aussi alors, est-ce que vous avez la place pour le faire?
Alors on m'a répondu. Ah oui, mais l'important pour eux, c'est pas tellement la culture, c'est le sport. Bon, alors moi, j'ai des doutes là-dessus, parce que le sport, c'est très bien, mais il faut aussi de la culture. Il manque une salle de spectacle, il manque un endroit où il y a une scène, il manque un endroit où on puisse faire de la musique, où on puisse faire du cinéma, où on puisse faire des choses comme ça. La plupart du temps, ces choses-là se font dans le lieu de culte. Le lieu de culte, c'est un local de... Je sais pas, moi, 30 à 40 mètres carrés.
Une salle polyvalente.
C'est une salle polyvalente, hein, tout à fait. Donc, on peut y faire quelque chose, on peut y faire des petites conférences, mais qui vont réunir 15 à 20 personnes.
Oui, on reste quand même dans des espaces qui restent toujours très restreints. Très restreints. On a l'impression que c'est plein de petites boîtes, quoi.
Oui.
En fait, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ou ce que vous disiez aussi, c'est le problème de. À quoi sert finalement la peine ou la condamnation? Est-ce que comment en fait on considère la justice et donc son développement qui est la condamnation en tant que telle? Ça va au-delà de la privation de liberté parce que là en fait on retire de la société des personnes qui ont à un moment donné été condamnées pour des raisons précises. Hein, voilà. Mais est-ce que finalement, on n'accompagne pas la privation de liberté. C'est-à-dire que on ajoute à la privation de liberté d'autres choses qui ne devraient pas être.
C'est ça. C'est la question du sens de la peine et du contenu de la peine. Car bon, il y a aussi derrière la question pénitentiaire et carcérale, la victime. Donc la victime a besoin de savoir que son infracteur, son agresseur vit une sanction. Donc elle se reconnaît victime ainsi. Mais une fois qu'on a dit cela, la punition ne suffit pas. Il faut trouver le nécessaire pour que la peine soit utile. Donc quand une personne détenue reste 20 heures sur 24 dans sa cellule, pendant un an, deux ans, cinq ans, on peut se dire, ça sert à rien, c'est destructeur, comme Claude disait. Donc ok, il y a une peine, on devrait plutôt même parler de sanctions, il faut bien montrer des limites, si on veut vivre en société, mais qu'est-ce qu'on propose ? Si la personne sort de détention cassée, ou pire, dans un état psychologique pareil, par exemple, on n'a rien gagné. Donc la grande question, c'est le sens de la peine, le contenu de la peine, qu'est-ce qu'on peut proposer pour la réhabilitation de la personne détenue ?
On refait une petite pause musicale et on parlera de tout ça après.
Si c'était pas toi, je te donnerais tort. Je ne trouverais pas d'excuse à ton erreur. Aucune circonstance atténuante, non. Pas de seconde chance, encore moins de pardon. Il n'en serait pas question. Si c'était pas toi, je te donnerais tort. Je ne trouverais pas d'excuse à ton erreur. À ton erreur. Si c'était pas toi, je te dirais petit. Ne compte pas sur moi pour te plaindre aujourd'hui. Je suis de ceux qui triment, on n'est pas des voyous. Ceux qui commettent un crime, ça peut pas être nous. Ne mélangeons pas tout. Si c'était pas toi, je te dirais petit. Ne compte pas sur moi pour te plaindre aujourd'hui. Plaindre aujourd'hui. Si c'était pas toi, je le dis haut et fort. Ça ne m'empêcherait pas de dormir que tu pleures. Derrière tes barreaux, tu aurais beau guetter le courrier. Pas un mot de moi, faut pas rêver, viendrait te consoler. Si c'était pas toi, je le dis haut et fort. Ça ne m'empêcherait pas de dormir que tu pleures. Que tu pleures. Si c'était pas toi, y aurait pas de raison pour que tu ne meures pas d'ennui dans ta prison. Entre tes quatre murs, tu aurais beau tourner avec moi, sois-en sûr, faut pas exagérer, t'aurais pas la télé. Si c'était pas toi, y aurait pas de raison. Tu ne meurs pas d'ennui dans ta prison, dans ta prison. Si c'était pas toi que je connais par cœur, tu ne remettrais pas demain les pieds dehors. Tu ne reverrais pas de sitôt le printemps. D'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Fallait choisir ton camp. C'était pas toi que je connais par cœur. Je serais, ça va de soi, pour la peine de mort. Peine de mort.
On a écouté l'être à un détenu.
Oui.
Toujours de Haute Défond.
Oui. Oui, donc encore Haute Défond qui a fait cette lettre aux détenus que j'espère vous avez bien appréciée.
Alors nous parlions de du rôle de la peine et je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour parler de la justice restaurative.
Alors oui, en 2014, le 15 août, a été votée pour la France... la possibilité de bénéficier de mesures de justice restaurative en complément à la justice pénale. Alors, la justice restaurative, on va dire, c'est une justice ancestrale. Par exemple, en Afrique, il y avait l'arbre de la palabre, où on se rassemblait avec le chef du village, il fallait régler les conflits. Et au Canada, dans les années 70-75, des Ménonites, c'est une branche protestante, ont eu l'idée de faire se rencontrer des infracteurs et des victimes pour résoudre les conflits. Alors peut-être qu'il fallait payer une amende, peut-être qu'il fallait assurer style travail intergénéral. Mais l'idée, c'était de faire en sorte que les personnes impactées par un traumatisme, une infraction, se rencontrent et se réapproprient le conflit. Donc la justice restaurative propose plusieurs mesures. La plus emblématique, c'est les rencontres détenues-victimes. Et j'invite les auditeurs à aller voir sur Internet, en 6 minutes 4 secondes, vous aurez le témoignage de prisonniers de victimes qui ont vécu une rencontre détenue-victime. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche « rencontre détenue-victime Poissy », la centrale de Poissy, et vous verrez tout de suite apparaître cette vidéo. Et combien les victimes comme les infracteurs disent que c'était bénéfique pour eux. Donc l'idée, c'est de reconstruire et les victimes et les infracteurs, qu'on ne reste pas dans son statut, mais qu'on reprenne sa vie en main et qu'on dépasse le traumatisme. Alors après, il y a aussi de l'accompagnement, qu'on appelle les cercles d'accompagnement et de ressources. Une personne sort de prison, elle peut être prise en charge par, on va dire, deux cercles. Un cercle de bénévoles pour coacher la personne de près, et un deuxième cercle, c'est aider la personne à faire ses démarches pour son emploi, sa santé, un logement, etc. Donc c'est ne pas laisser la personne seule avec sa sortie de prison, ce qu'on appelle une sortie sèche par exemple, ou même quand c'est préparé avec l'administration pénitentiaire, s'il n'y a pas un soutien de bénévole, il peut y avoir risque de récidive. Donc justice restaurative, c'est restaurer les personnes, les victimes, les infracteurs et l'entourage des victimes et des infracteurs.
Restaurer un lien aussi.
Restaurer un lien.
Ça se place à quel moment
Alors, la
pendant
loi,
la détention
ou... La loi, vous allez voir, article 10 du Code de procédure pénale, tiré 1 et tiré 2, dit que c'est à tout moment du processus judiciaire. Le personnel, soit pénitentiaire, soit la police, informe les victimes ou les infracteurs qu'ils peuvent bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Alors on est seulement en train de mettre en place ces mesures-là, car il faut former le personnel pénitentiaire qui va intervenir, il faut former des bénévoles ou des salariés d'entreprise, d'association. On forme ce qu'on appelle des membres de la communauté, ça veut dire des membres de la société en fait, qui vont participer à ces cercles de discussion. On parle d'un cercle de parole sécurisé. Donc on est dans la phase de formation. Ceci dit, on est quand même aujourd'hui à 64 programmes de justice restaurative mis en place en France depuis 2 ans. En novembre 2017, je participe à une deuxième conférence européenne de la justice restaurative à Paris, et 4 hauts fonctionnaires du ministère de la Justice nous donnaient ces chiffres. 64 programmes mis en place ces temps-ci. C'est lent, parce qu'il faut former le personnel, et aussi le service pénitentiaire d'insertion de probation est déjà débordé. On rajoute des mesures et des programmes à tout ce qu'ils ont déjà à faire. Donc c'est petit à petit qu'on va mettre ça en France en place.
Et quand vous dites cercle de parole, ça veut dire que ce n'est pas forcément un espèce de face-à-face victime.
Non, c'est ça. C'est ça.
Et détenu, alors, on est dans quelque chose de plus global.
C'est ça. Alors, on n'est pas dans une rencontre directe, c'est indirect. On ne rencontre pas sa victime.
Personne, oui.
Voilà. Par exemple, un cambrioleur rencontre une personne qui a été cambriolée. Et une rencontre détenue-victime, ça va être 3, 4, 5 infracteurs, 3, 4, 5 victimes, avec 2 animateurs labellisés, 2 membres de la société, membres de la communauté, et c'est ensemble qu'on va réussir, avec une pédagogie spéciale, à faire circuler la parole, et c'est 5 rencontres de 3 heures, et une 6e rencontre de bilan. Et là, on pourrait dire que ça a fait ses preuves. Hein. En Nouvelle-Zélande, c'est inscrit dans leur système judiciaire. Au Canada, aux États-Unis, ça démarre aussi. En Belgique, ils sont bien avancés. en Angleterre, en Allemagne, en France.
Et ça concerne tout type de... on parle d'infracteurs.
Ouais. Est-ce ça que concerne ça, tous les types...
y compris des choses voilà, violentes.
Même y compris, oui, même sexuelles, même... Oui, bien
dans
sûr.
Cette
oui.
vidéo, là, vous verrez, c'est des personnes qui ont pris 20 ou 30 ans. Mmh.
Donc des peines déjà lourdes, mmh. oui.
Et par contre, ça fait pas évoluer leur situation. C'est juste une situation.
Alors ça fait évoluer la personne.
La personne, mais ça va pas changer. Ça va pas être une remise de peine ou
voilà.
quoi que ce soit.
Et c'est là le sérieux de la justice restaurative. On va pas mettre en place une mesure de justice restaurative pour en tirer un bénéfice.
Ouais.
On le fait pour se reconstruire. C'est totalement gratuit et la personne peut quitter à tout moment le dispositif.
Et elle ne sera pas sanctionnée pour autant.
Non, c'est ça.
Non.
On est en totale liberté et en totale gratuité. Et là, ça prend du sens.
Et là, il y a une demande, vous parliez des 64
mesures de justice restaurative en France.
Mais c'est ce que tous ceux qui souhaiteraient y accéder... je ne sais pas si c'est particulièrement...
pour l'instant, ce n'est pas vraiment connu.
Connu, voilà.
Alors, ceci dit, il y a des belles surprises... Il y a quelques semaines, on fait rencontrer un détenu, je le vois dans sa vie, dans sa cellule, et c'est le premier à me parler de justice restaurative. Il me dit qu'il a déjà fait des formations de cercle restauratif, et il me sort de sa bibliothèque, de sa cellule, deux livres. C'est des livres piliers de la justice restaurative, et c'est un détenu qui connaît ce programme, qui veut continuer à se former. Alors là, on pourrait se dire, on a du côté, on a les victimes, de l'autre côté, on a des détenus, mais là, c'est un détenu qui est lui-même intéressé par la justice restaurative et qui s'est déjà formé et qui veut bénéficier de la justice restaurative. Mais alors, c'est sûr que sur tous les détenus que je peux rencontrer, je crois que pour l'instant, c'est le seul. Alors, mon travail, pour l'instant, c'est d'en parler. Bon, comme en ce moment, à la radio... de faire des conférences, d'échanger avec des magistrats et d'autres bénévoles d'associations pour que cette justice restaurative soit connue et que des personnes intéressées se forment et alors on pourra mettre en place ces programmes.
Oui, moi je crois que c'est très important. C'est très important, c'est-à-dire que il faut donc mener une réflexion sur le sens de la peine, le faire connaître au public, parce qu'actuellement le public est très étranger à ces notions-là. Actuellement, on en parle pas assez. C'est pour ça que nous on se donne comme tâche là-haut à la concertation prison. Pour effectivement mettre tout ça en avant.
Hein. Et voilà. Donc pas seulement agir dans les prisons, mais aussi agir dans la société pour faire connaître, étant à la radio, mais vous avez certainement d'autres...
à la société que la politique sécuritaire actuelle pénitentiaire, elle est ruineuse, elle est inefficace. Et elle doit trouver d'autres moyens de sortir. Alors il y a les aménagements de peine, il y a la justice restaurative, il y a le fait qu'il ne faut pas systématiquement appliquer des peines d'incarcération. Pour un jeune notamment, on va fabriquer quelqu'un qui va être révolté, et qui ne va pas s'insérer. Donc ça, le bilan social est désastreux. Et le fait de pousser en s'élevant contre laxisme des juges, c'est une fausse solution. Les juges, la plupart du temps, ne sont pas laxistes. On les appelle, on leur demande vraiment d'appliquer le code pénal. Et le code pénal, il est souvent très 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 dur. Hein, voilà. Donc, ce que je disais, moi, c'est que il faut changer cette orientation politique. Surtout que actuellement. Si on parle sur le plan économique, le fait de construire 15 000 places, ça veut dire qu'on va les faire avec un partenariat public-privé. Comme a été construite la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, c'est-à-dire que c'est FH qui a construit, qui est propriétaire et qui loue à l'État le bâtiment.
Qui se fait de l'argent. Et ça pourrait être Vinci.
Les affaires boulant. Ça peut être Bouygues, ça peut être Vinci. Ça va être les gros bétonneurs qui vont essayer de tirer leur marron du feu. Voilà. Donc je pense qu'il faut revoir la question. Alors qu'on reconstruise des établissements plus modernes pour remplacer ceux qui sont extrêmement vétustes et qui sont dans des conditions inacceptables, c'est tout à fait normal. Mais vouloir faire des places supplémentaires, si on en fait 15 000, il faudra en faire 30 000.
Et puis il faudra les remplir pour que ça rapporte.
Mais elles se rempliront.
C'est bien ça.
Actuellement, elles se remplissent trop. Tous les chefs d'établissement vous diront, j'ai trop, on m'envoie trop de monde. Et je ne peux pas les, loger. Le directeur de Corba nous dit, mais moi, je peux refuser personne. Je ne peux pas dire, l'hôtel est plein, il n'y a plus de chambres de disponibles. Non, c'est, qu'il fasse
Il y a un vrai gros chantier sur à la fois la prévention, l'accompagnement aussi, bien sûr, de la détention et de sa définition, et de la définition de la condamnation, qu'elle soit par d'autres biais, et puis aussi peut-être par la justice restaurative.
Les peines alternatives.
Les peines alternatives. Et puis aussi repenser effectivement la relation de l'individu à un moment donné, ce qui permet peut-être d'éviter aussi de la récidive.
C'est ça.
La justice restaurative, je pense que c'est aussi un des moyens d'éviter la récidive.
C'est une des conséquences, puisque quand un infracteur rencontre des victimes, il se rend mieux compte du traumatisme qu'il a causé. La victime, elle, va être guérie en voyant que ben, c'est un homme, c'est une femme comme moi qui a dérapé. Mais je vais quitter une angoisse, une peur, suite à mon agression, par exemple. Et tout cela bénéficie à l'infracteur pour se réinsérer.
Donc, et aussi à la victime.
Et à la victime. Et on voit bien que enfin, forcément, ça évite de la récidive. Alors, il faut savoir pour les peines de prison que le taux moyen d'incarcération en France est de 11 mois. Donc les grands criminels qu'on voit à la télévision, ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de petites peines qui pourraient se faire autrement que par l'incarcération.
Alors il est 18h58, il faudrait peut-être que vous nous donniez vos coordonnées, enfin savoir ce qu'on peut faire, si on a envie de s'engager dans vos mouvements.
Alors, il y a des associations qui sont en recherche permanente de membres, il y a l'accueil Saint-Marco. L'accueil Saint-Marco, vous pouvez appeler...
Les numéros de téléphone, je propose, on va aller. Vu le temps qu'il nous reste, on les mettra sur le site, puisque les émissions sont en podcast.
Ça serait un petit
peu
long.
Et on pourra mettre des liens.
Il n'y a pas de site internet collectif ou une page Facebook on mettra ça effectivement.
Voilà.
Lydie a raison.
On vous les donnera.
Voilà. Oui, les auditeurs pourront trouver des renseignements sur notre page.
D'accord. Et donc pour cette fameuse vidéo, donc on a dit justice...
Rencontre détenue victime, Poissy.
Et là on pourra aussi mettre le lien.
Et vous pouvez contacter l'Institut français de justice restaurative qui couvre l'ensemble.
Mmh. Voilà.
Eh bien merci messieurs, c'était passionnant. On pourrait en parler, je pense, pendant
des heures.
Merci bien.
Merci de votre invitation.